Is on.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ ہفتے لجنہ مائلہ جرمنی اور خدام الحمدیہ جرمنی
Par la grâce de Dieu, la semaine dernière, on avait organisé les ijtimaa de la Lajna Imaila et de la Khudam al-Ahmadiyya de la Jama de l'Allemagne. Et comme dans le passé, ces rencontres ont apporté des bénédictions de Dieu. Je suis en train de recevoir des lettres des khudam et des dames à ce sujet. Et grâce à ces lettres, j'ai l'impression que les conseils que je leur ai prodigués ont réveillé en eux leur bonne nature. J'ai l'impression que ces conseils ont réveillé en eux leur bonne nature. Voilà donc la qualité, la distinction d'un Ahmadi. C'est ainsi qu'il doit agir, à savoir, lorsqu'on lui prodigue des conseils, lorsqu'on lui fait des rappels concernant les commandements de Dieu, il écoute ses conseils, et un nombre important des membres de la communauté se comportent en tant que croyants lorsqu'on leur prodigue ses conseils, lorsqu'on leur fait ses rappels, et ils tombent sous la catégorie de ceux qui ont été évoqués dans ce verset du Saint-Coran, où il est dit « وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَقِرُوا عَلَيْهَا سُمًا وَعُمْيَانًا » Ceux, lorsqu'on leur récite les signes de leur Seigneur, ils ne se comportent pas comme des sourds et des aveugles. Ils ne disent pas que nous n'avons rien entendu. Ils ne disent pas qu'on ne sait pas ce qui se disait là-bas et quel était l'environnement qu'il y avait là-bas. S'ils étaient faibles, ces croyants, eh bien, ils seront pris de remords et d'embarras. Si auparavant déjà ils faisaient des efforts pour progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres, eh bien, en entendant ces conseils, ils ont fait plus d'efforts pour suivre ces préceptes et ils ont essayé de les traduire dans la pratique. Au cours de ces ijtimaa, il y avait presque la moitié de la Jamaat de l'Allemagne qui était présente. Si la majorité de ceux qui étaient présents apportent en leur personne des changements positifs, eh bien, ces gens vont soutenir la révolution que le Messie promis alayhi salam voulait apporter dans le monde afin de réformer l'humanité. C'est une révolution que sa communauté doit apporter. Ainsi, ces gens qui ont apporté en leur personne ces changements positifs vont soutenir cette révolution. J'ai dit la majorité parce que certainement il y a ceux qui étaient présents mais qui n'ont pas été influencés par ces paroles. Mais quant à ceux qui ont été influencés par ces paroles, quant à ceux qui ont fait leur analyse de conscience, ces gens qui m'ont écrit, qu'ils sachent que s'ils ne raniment pas ces sentiments de temps en temps, si les organisations auxiliaires ne répète pas les conseils que j'ai prodigués, Eh bien, après quelque temps, on va oublier ses conseils, on va oublier ses émotions, on va oublier ses remords. Les membres des organisations subsidiaires qui étaient présents ici, ainsi que ceux qui ont suivi ces discours par l'entremise de la MTR de par le monde, doivent comprendre eux aussi que ce fer est encore chaud et qu'ils doivent essayer de le forger selon la forme que voulait le faire prendre le Messie promis, alayhi salam, cet amour parfait du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Je parlais de ceux qui ont suivi ces discours à la MTA. Eux aussi m'ont envoyé leurs lettres remplies d'émotions. J'ai reçu les impressions de certains parents qui nous ont dit que nos enfants, nos atfad, ont écouté vos discours avec attention. Et nous avons vu sur les visages de ces enfants de 10 ou 11 ans de l'embarras. Une mère m'a écrit en disant que lorsque mon enfant écoutait votre discours, il avait placé devant son visage un coussin. Parce que moi, le calife, j'étais en train de dire dans mon discours des paroles qui s'appliquaient à lui. Et il avait l'impression que le calife le voyait à travers la télé et que le calife s'adressait directement à lui. C'est pour cette raison qu'il avait caché son visage pour que le calife ne le voie pas. Voilà donc cet esprit qui anime les membres de la Jama du Messie premier alayhi salam. Dieu a fait naître cet esprit même en ses enfants. Ces conseils ne tombent pas sur des oreilles des sourds. Ils se sentent embarrassés et essayent de se réformer. Et certains ont éteint leur téléphone portable. Il y avait certains enfants qui ne se consacraient pas à leurs études et qui, pendant les heures des classes, attendaient la récréation afin qu'ils puissent sortir, pour qu'ils puissent jouer sur leur portable ou pour qu'ils puissent perdre leur temps dans ces futilités, et ces jeux que l'on trouve sur les portables et tout. Lorsqu'ils m'ont écouté, moi qui leur disais que ce sont des choses futiles, ils ont dit qu'ils ne vont plus jouer à cela. Ces jeux ne vont pas leur faire avoir une bonne santé physique ou mentale. Au contraire, ils seront accros de ces jeux et ils vont perdre leur temps constamment dans ces choses futiles. Cela va se transformer en folie. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Quant à ceux qui sont grands, ils doivent eux aussi faire leur analyse de conscience. On doit faire cette analyse de conscience de façon constante. Et les parents doivent constamment faire des rappels à leurs enfants. Puisqu'ils ont adopté une bonne habitude, ils doivent faire en sorte que cette habitude fasse partie intégrante de leur vie et ils ne doivent pas être influencés par la société. Sachez aussi que toute joie temporaire ne peut être une joie véritable pour nous. Tant que nos vertus, tant que nos joies, tant que nos bonnes œuvres, tant que nos changements purs ne vont pas faire partie intégrante de notre nature, nous n'allons pas nous asseoir les bras croisés. Tant que nous ne faisons pas notre analyse de constante, de façon permanente, nous n'allons pas pouvoir apporter cette grande révolution. Lors de ces ijtémas, j'ai dit que lorsqu'on a atteint un niveau important, l'on a davantage de soucis à se faire. On doit comprendre davantage ses responsabilités. Tous les membres de la communauté doivent comprendre cela et les organisations auxiliaires et toute la Jamaat et Sanitam doivent comprendre cela. Cette année-ci, j'ai été très impressionné par la Lajna Imaïla. Les dames et les jeunes filles, les grandes et les petites m'ont écouté en silence et en toute attention. Généralement, en raison de la nature des dames, j'essaye de ne pas parler pour plus de 40 ou de 45 minutes. Mais cette fois-ci, lorsque je m'adressais aux dames, lorsque j'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'on avait déjà dépassé les 1h30. Mais les jeunes filles, les grandes et les petites, les dames aussi, toutes m'ont écouté en silence tout au long de ce discours. Qu'Allah fasse que mes paroles puissent avoir de l'influence sur leur personne. Il faut que cette influence soit permanente et la Lajna Imaïla ne doit pas se contenter du fait que leur ijtema a été un grand succès et qu'on a fait leur éloge. Elle doit faire en sorte que ces conseils fassent partie intégrante de leur feuille de route. Les responsables aussi doivent faire leur analyse et les membres ordinaires de la Jama doivent en faire de même. C'est là que nous pourrons être les véritables soutiens du Messie promis, alayhi salam. C'est là que nous pourrons être de ceux à propos de qui le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que dans un hadith, il est dit que le saint prophète a déclaré que ma umma est une umma bénie. Je ne sais pas si c'est sa première période qui est meilleure que sa dernière période. C'est-à-dire, ces deux périodes seront bénites. Quelle est cette dernière période qui a été évoquée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est cette période qui est liée avec la première période du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cette dernière période, c'est la période des akhirin, tout comme elle a été évoquée dans le saint Coran. C'est la période de l'avènement du Messie promis, alayhi salam, cet amoureux parfait du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui allait lier les awalin avec les akhirin, celui qui allait ramener la foi de nouveau sur terre, celui qui allait rétablir sur terre le royaume du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne veut pas dire qu'Allah nous en protège, que le prophète qui va venir ou qui allait venir sera l'égal du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils seront égaux et qu'on ne pourra pas reconnaître qui est meilleur. Cela est impossible. Il y a d'une part le maître et d'autre part le serviteur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que moi j'ai répandu la lumière de la direction au cours de ma vie et après une période des ténèbres. Cela a été évoqué dans un hadith de Muslim. Il y a nombre de hadiths à ce sujet. Mais dans un de ces hadiths cité par Hadrat Imran, il est dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les meilleurs vont vivre à mon époque. Ensuite viendra l'époque de ceux qui vont les suivre. Imran a déclaré que je ne sais pas s'il a répété cela une ou deux fois. Mais en tout cas, après cela, le saint prophète a déclaré qu'après eux, il y aura ceux qui vont donner des témoignages à tort et à travers, qui seront coupables de malhonnêteté, qui ne vont pas respecter les engagements qu'ils auront pris et qui seront obèses en raison de l'aisance dans laquelle ils vont vivre. Selon les autres hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et grâce à d'autres paroles du saint prophète, l'on comprendra qu'après cela, Dieu va mettre fin à cette période de ténèbres. Et le Messie et le Mahdi seront envoyés par Dieu dans les derniers temps. Et grâce à l'aide de Dieu, il va implanter ça et là des minarets de lumière. Dans différents endroits, par différents moyens, il va guider les gens dans la bonne direction. Le Messie promis alayhi salam a évoqué cela en disant que la religion a été parachevée par l'entremise du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa direction est arrivée à sa perfection par son entremise. Et aujourd'hui, à notre époque, les moyens de communication ont fait que le monde s'est rapproché et que le monde s'est transformé en un village global. Grâce à ces nouveaux moyens de communication, la terre tout entière s'est transformée en un village. Ainsi, au cours de cette période, cette direction parfaite qui a été accordée au saint prophète sera diffusée de façon complète. La période du saint prophète était la période du parachèvement de sa direction et la période du Messie promis et celle du Messie promis l'Islam et la période du parachèvement de cette diffusion. Que l'on soit de la première période de cette Oumma ou que l'on soit de la dernière période de cette Oumma, ces deux périodes sont bénites. Ces deux périodes sont bénites parce que ces deux périodes ont trait à la personne du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons être les suivants du Messie promis, alayhi salam. Nous avons une grande responsabilité afin de parachever la diffusion de ce message. Et cela va se faire lorsque nous allons tout faire nous-mêmes pour que nous soyons guidés en premier. Lorsque nous allons renouveler nos engagements et lorsque nous allons suivre l'exemple du parachèvement de cette direction, c'est-à-dire la période des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons qui ont été des exemples de cette direction et de ses enseignements, des personnes qui par leurs actions et qui par leurs paroles ont exprimé tout cela. Et les gens de toute une période ont été complètement ébahis en voyant leur relation, avec Dieu et en voyant leur état de moralité. Le Messie promis, alayhi salam, a évoqué ce sujet en disant qu'on a critiqué l'islam, en disant que l'islam s'est répandu par la force de l'épée. Il a dit, est-ce qu'on a envoyé des armées musulmanes en Chine pour y répandre l'islam? Il a cité cet exemple. Il a dit, est-ce que les musulmans sont partis là-bas avec leurs épées pour faire la guerre? Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il y a eu des commerçants, des prêcheurs, des gens de différentes professions, des compagnons ou leurs proches, ceux qui les ont suivis. Il y avait des tabéines. Ce sont ces musulmans qui ont transmis le message de l'Islam là-bas. Ces commerçants, ces gens qui appartenaient à différentes professions et de corps des métiers, lorsqu'ils sont partis là-bas, ils ont montré leur exemple. Ils ont exprimé cet enseignement pur et c'est ainsi que s'est répandu le message de l'islam. Et nous voyons qu'il y a aujourd'hui des millions de musulmans en Chine. Ainsi, les gens de différentes catégories, de différents statuts doivent montrer leur exemple, ils doivent comprendre leurs responsabilités, ils doivent comprendre comment transmettre le message de l'islam, ils doivent se réformer. J'ai cité l'exemple de la Chine et je dois dire que malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à prêcher directement notre message, le message du Messie promis en Chine, directement, mais puisque nous sommes en train de vivre à l'époque de la diffusion du message, c'est pour cette raison que Dieu est en train d'ouvrir différents moyens, différentes portes pour nous, afin de transmettre ce message. C'est là quelque chose d'étrange que, d'une part, la Jamaat de l'Allemagne arrive à transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya ici en Allemagne. Dieu nous a offert différents moyens pour cette diffusion. Et grâce à une exposition, on est entré en contact avec la Chine et de l'Allemagne. Maintenant, depuis 2 ans, on participe dans une exposition et ainsi on arrive à transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans la langue chinoise. C'est la Jamaat de l'Allemagne qui a l'occasion de le faire. Et de nouvelles portes sont en train de s'ouvrir. Si on n'avait pas cette littérature dans la langue chinoise, nous n'aurions pas pu accomplir cette tâche, mais Dieu a déjà tout préparé en avance. Il y a, par la grâce de Dieu, le bureau chinois qui est en train d'accomplir cette tâche. Il y a Mokaram Osman Chinisab qui est le responsable. On a déjà publié le Saint-Coran dans la langue chinoise. On a fait publier d'autres ouvrages dans la langue chinoise. Et comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, la Jamaat de l'Allemagne a l'occasion de transmettre ce message jusqu'en Chine. Ainsi donc, on est en train de diffuser le message du Saint-Coran dans des langues de ces contrées très éloignées. Allah est en train de nous en accorder l'occasion. Voilà un signe de cette période bénite. À savoir que, ainsi, on va transmettre le message du Saint-Prophète aux 4 coins du monde. Bénies soient ces personnes qui sont en train de participer dans cette diffusion du message et qui sont en train de profiter de la joie du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui essayent de renouveler la période du Saint-Prophète, paix soit sur lui, tout Ahmadi, doit certainement comprendre cela. Il ne suffit pas d'être animé par des émotions temporairement. On doit profiter des occasions qu'Allah est en train de nous offrir. On doit considérer cela comme une grâce de Dieu. On doit certainement en profiter. Et on doit faire de son mieux en ce sens. Comme je l'ai dit, la Jamaat de l'Allemagne arrive à participer dans cette diffusion du message en Chine et ils arrivent à le faire aussi dans les pays avoisinants. Donc, vous devez attirer cette grâce de Dieu. S'il n'y avait que quelques personnes qui se consacraient à cette diffusion quelque temps de cela, ou s'il y avait quelques centaines de personnes qui le faisaient auparavant, après cet ijtema, vous avez exprimé vos émotions et vos sentiments. Et maintenant, des milliers de personnes doivent être de bons exemples, doivent accomplir de bonnes œuvres. Et toutes ces personnes ont renouvelé leur engagement et doivent participer dans cette révolution, être parmi ces personnes bénites à qui le Saint-Prophète a donné ses bonnes nouvelles, à savoir que la dernière période aussi sera bénite. Bénites soient ces personnes des derniers temps qui vont compléter la tâche du Messie premier, les salam. Dieu avait informé le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam concernant ces bonnes nouvelles qui concernent sa Ummah. Parmi ces bonnes nouvelles, il y a le califat. Lorsque Dieu a informé le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam concernant cette bonne nouvelle qu'est le califat, cette bonne nouvelle repose sur un point central. Il y a un point central qui sera la cause de cette bonne nouvelle. Il y a un point fondamental sur lequel repose le progrès de la Umma. Et cela, c'est le califat. Le saint prophète a déclaré que c'est la Khilafat Rashida qui sera la cause de ce progrès. Et il a dit qu'après cela, il y aura des tyrans qui vont venir. Il dit que les membres de la Umma seront désespérés, ils vont passer par des situations très difficiles, ils vont passer par une période ténébreuse. Mais après cela, la grâce de Dieu entrera en ébullition et Dieu va regarder cette Umma avec amour de nouveau et il va mettre fin à cette période tyrannique. Et ainsi, il va rétablir le califat sur les préceptes de la Nubuwa. C'est un califat qui va durer jusqu'à la fin des temps. Dieu a dit que cette Umma du Saint-Prophète est la meilleure des Ummas et il va renouveler cela. Aujourd'hui, les différents éléments du monde musulman, les différentes organisations disent de temps en temps que l'on doit rétablir le califat. Tout cela parce qu'ils savent très bien que le salut de la Umma repose sur le califat. Cela ne pourra se faire sans le califat. Mais en même temps, ils sont aveugles, ces gens. Ils ne sont pas prêts d'accepter l'envoyé de Dieu, par l'entremise duquel on a établi ce califat sur les préceptes de la Nubuwa. Le Saint-Coran et les Ahadiths sont en train de soutenir ce point, à savoir que le salut de la Umma, le fait de sortir cette Umma de cette période d'oppression et des ténèbres, tout cela dépend de ce califat qui a été établi par l'entremise du Messie promis qui a été envoyé par Dieu. Aujourd'hui, tous les pays musulmans sont en train de passer par ces situations difficiles et tout cela annonce clairement que l'on doit réfléchir à ce sujet. Tout cela doit pousser les gens à méditer sur leur situation. Tout cela les appelle vers ce que leur conseille Dieu et son prophète, car c'est en cela que réside la solution de leurs problèmes. C'est en cela que réside la fin de leur désarroi. C'est ainsi qu'ils pourront se débarrasser de ces puissances qui sont en train de convoiter leurs richesses. La seule solution, c'est d'accepter ce Messie et ce Mahdi. C'est un message que nous allons devoir donner au monde entier. Nous devons ce même message ici aux gens de l'Allemagne. Nous donnons ce même message aux Européens, aux gens de l'Asie, aux gens des pays arabes. Nous leur donnons ce message, en particulier à ces pays musulmans. Nous leur disons que Dieu est en train de vous appeler, son prophète est en train de vous appeler. Répondez à leurs appels. Reconnaissez ce Messie et ce Mahdi. La grâce de Dieu est entrée en ébullition et en raison de cette grâce, il a envoyé son bien-aimé. Soyez le soutien de ce bien-aimé, c'est en cela que réside votre salut. Les Ahmadis essayent de transmettre le message du Messie promis dans les pays musulmans et sont dans la plupart des cas victimes de cette persécution. En dépit de cette persécution, par sympathie, ils sont en train de transmettre ce message. En fait, c'est le message du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, afin que la majorité des membres de cette Umma puissent vivre dans cette dernière période, pour qu'ils puissent être parmi des personnes bénites de cette Umma. C'est là le devoir de chaque Ahmadi que de transmettre ce message. Et comme j'ai dit auparavant, comme je le répète souvent, nous devons aussi faire notre analyse de conscience. Nous qui disons être Ahmadi, combien d'entre nous qui sont en train, pendant les 24 heures, ou une fois par semaine, ou qui, une fois par mois, sont en train de méditer sur cette question, à savoir que nous disons être les suivants du Messie premier, alayhi salam. Si nous devons être les suivants du Messie premier, alayhi salam, eh bien, avons-nous compris nos responsabilités? Sommes-nous en train de méditer sur nos responsabilités? Quelle doit être la norme de nos ibadats? Quelle doit être la norme de notre moralité et de nos excellences? Nous disons avec fierté que le califat sur les préceptes du Nubuwa est en nous. Sommes-nous en train de soutenir ce califat? On doit donc méditer à ce sujet. La grâce de Dieu est entrée en ébullition et il a envoyé cette grande personne à l'instar du Messie premier, alayhi salam, cet amoureux parfait du saint prophète qui est venu pour nous réformer. Et il est en train de nous accorder l'occasion de lui prêter allégeance. Est-ce qu'il suffit de lui prêter allégeance? Le saint prophète a déclaré que la dernière période sera aussi bénite que la première période. Il voulait tout simplement dire que les suivants du Messie promis vont participer dans cette grande révolution. Révolution pour laquelle le Messie a été envoyé. Ils vont participer dans ces changements, des changements pour lesquels le Messie promis, alayhi salam, a été envoyé. Ils vont faire naître sur sa terre ce paradis, le paradis qui va nous aider à avoir le paradis dans l'au-delà. Aujourd'hui, c'est la tâche de tout Ahmadi que de jouer son rôle pour apporter cette révolution et d'apporter ce grand changement dans le monde et de jouer son rôle à ce sujet, de faire de son mieux pour faire de ce monde un paradis. Et pour cela, nous allons devoir nous tourner vers le Saint-Coran et nous allons devoir méditer sur ses commandements. Lorsque nous allons essayer de vivre selon les préceptes du Saint-Coran pour apporter cette révolution, pour apporter ce grand changement, pour transformer ce monde en paradis, lorsque nous allons agir en ce sens, Inch'Allah, le monde va nous suivre, et certainement le monde va nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes faibles. Apparemment, nous n'avons aucune importance au monde. Partout, nous sommes la cible de persécution. Lorsque vous allez comprendre le sens de votre baïra, lorsque nous allons faire preuve de détermination, ces gens, même si ces gens n'ont pas eu l'occasion de nous accepter, eh bien, un jour, leurs descendants seront fiers d'être les suivants du Messie promis, alayhi salam. Faites en sorte que vos paroles et vos actions soient en accord avec votre baïra. C'est ainsi que doit agir tout Ahmadi. Vous ne devez pas vous empêtrer dans les choses de ce bas monde en vivant ici, en Occident. Si vous croyez que vos ijtemas et vos jalsas ont eu de l'effet sur vos vies, eh bien, il ne faut pas que cet effet soit temporaire. Il faut faire en sorte que ces effets fassent partie intégrante de votre vie. Par la grâce de Dieu, il y a de telles personnes dans la Jamaat qui comprennent cela. Ce sont des personnes qui sacrifient leur personne. Ce sont des personnes qui comprennent cet esprit de sacrifice. Et il y en a de telles personnes parmi les jeunes, parmi les hommes, parmi les femmes. Auparavant, j'avais des soucis concernant les Wakfenau, car certains ne savaient même pas c'était quoi le sens de Wakfenau. Après leur adolescence, ils ont cru que seuls ceux qui sont partis dans la Jamia sont des Wakfenau et que les autres n'ont aucun objectif. Et certains ont commencé à travailler et le centre ne savait même pas où étaient partis ces Wakfenau. Ils pensaient qu'ils avaient porté le titre de Wakfenau et que cela suffisait. Mais lorsque l'on pose ces questions aux étudiants, ceux qui étudient à l'université, ils disent que nous avons commencé nos études après avoir demandé la permission au centre et après avoir demandé la permission au calife. Et après nos études, nous allons nous présenter pour servir la communauté, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, nous voyons cet esprit en vivant ici. Ils se sont préservés des mauvaises choses. Ils se sont écartés des mauvaises choses et ont essayé de se purifier. Ils ont essayé de maintenir leur pureté. Lorsqu'il est question des sacrifices financiers, hier même, une dame a apporté des bijoux pour m'offrir en disant que j'ai fait le serment d'offrir cela à la Jamaat. Maintenant, cela m'est interdit. J'ai insisté pour la dire de garder un peu de ses bijoux pour elle, mais elle a répondu que moi, j'ai fait ce serment avec Dieu et vous ne devez pas m'empêcher d'accomplir cette promesse. Voilà cette révolution. Voilà la révolution qu'a apportée le Messie premier l'Islam dans les membres de sa Jamaat. Ce sont des gens qui font preuve d'humilité. Ce sont des gens qui respectent les autres préceptes de la charia. Ils respectent ces préceptes, que cela concerne leur business ou que cela concerne leur vie au sein de leur famille, afin que leur vie au sein de leur famille et dans la société soit à l'exemple du paradis. Aujourd'hui, partout, il y a de l'égoïsme et du matérialisme. Accomplir ses bonnes œuvres, se maintenir sur cette voie et persévérer sur cette voie en demandant l'aide de Dieu sera un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. Comme j'ai dit, il y a de telles personnes, mais ces gens doivent être en majorité, comme je l'ai dit, afin que toute cette société puisse être à l'exemple du paradis. Cela concerne cette vie sur terre et la vie dans l'au-delà. Et l'époque du Messie premier, l'Islam, c'est une période qui se rapproche du paradis. Dans le Saint-Coran, Allah a évoqué cela en disant « وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ » Lorsque le paradis sera rapproché, chanceuses sont ces personnes qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier, l'Islam, et qui ont commencé à profiter de ce paradis qui s'est rapproché. Quant à ceux qui ne sont pas en train de profiter de ces faveurs que Dieu a accordées, doivent se faire des soucis. Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'Allah n'a pas déclaré qu'il suffit d'accomplir une seule action pour mériter les faveurs de Dieu. Vous allez devoir accomplir toutes ces bonnes œuvres afin que vous puissiez mériter cet amour de Dieu, afin d'acquérir cet amour de Dieu. Nous allons devoir regarder de près chacune de nos actions, afin que nous puissions attirer la grâce de Dieu, afin que nous puissions attraper ce paradis qui s'est rapproché de nous. Nous avons accepté l'imam de l'époque, cet imam qui nous a guidés et qui a déclaré que nous devons être des walis et des pires et nous ne devons pas être des adorateurs des walis et des pires. Aujourd'hui, ces soi-disant pires et dévots ont fait de la religion une farce. Il a déclaré « Soyez vous-même des dévots et des saints ». C'est-à-dire, chacun d'entre vous doit être un ami de Dieu. Ne soyez pas comme ces pires, comme ces soi-disant dévots d'aujourd'hui qui ont fait de l'islam une force, qui sont en train d'égarer les gens et qui sont en train de les mener vers l'enfer en leur faisant convoiter le paradis. Le deuxième calife rapporte un incident que rapportait le premier calife, radhiyallahu anhu. Il disait qu'il avait une sœur qui était la mouride ou la suivante d'un soi-disant guide spirituel. Le premier calife disait à sa sœur qu'elle doit avoir crainte de Dieu, qu'elle doit embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà, et qu'elle doit être Ahmadi. Sa sœur a répondu que moi, je n'ai pas besoin d'être Ahmadi. Moi, je suis la suivante ou la mouride d'un tel guide spirituel, un guide qui est d'une grande dévotion. Celui-ci m'a dit que ce n'est pas la peine pour moi d'accomplir de bonnes œuvres et que je dois être son mouride sincère et que ce n'est pas la peine pour moi d'accomplir de bonnes œuvres et que tous mes péchés ont été pris par ce guide. Ainsi donc, ce ne sont pas uniquement les chrétiens qui nous présentent ce concept de la rédemption, ces soi-disant pires ou guides spirituels musulmans ont présenté le même concept. Ces personnes peuvent-ils mériter le titre de Khayri Umma? En tout cas, le premier calife a dit à sa sœur que « Va voir ton guide spirituel et demande-lui qu'au jour de la résurrection, lorsque chaque personne sera questionnée concernant ses actions, et lorsque ton guide va être châtié en raison des péchés des autres, demandez à votre pire en disant que vous avez porté les péchés de vos suivants et vous serez certainement châtié. » En tout cas, sa sœur a dit que je vais poser cette question à mon guide spirituel. Lorsqu'elle retournait voir le premier calife quelque temps après, celui-ci lui a demandé « Est-ce que vous avez posé cette question à votre guide ?» Sa sœur a répondu « Que tu présentais cela comme un très grand problème, mais mon guide spirituel a résolu ce problème en quelques secondes. » Elle a dit que je lui ai posé cette question et celui-ci a répondu que lorsque les anges vont te poser cette question concernant ses péchés, dis-leur que moi je ne sais rien. Il y a le pire qui est présent ici et celui-ci m'a dit que je peux faire ce que je veux, personne ne va me demander à ce sujet. Demandez cela à ce pire, c'est-à-dire demandez cela à ce guide et c'est là que les anges vont te laisser. Et lorsque les anges vont se tourner vers moi, toi cours et entre au paradis et ce sera entre moi et ces anges. Et lorsque les anges vont me poser des questions à ce sujet, je vais faire sortir mes yeux de colère et je vais dire qu'à Karbala, on a tourmenté notre grand-père Imam Hussein. Vous êtes en train de nous tourmenter comme vous l'avez tourmenté là-bas. Sur cette terre, les gens ont rendu notre vie difficile. Et ici, dans l'au-delà, vous êtes en train d'agir de la même façon envers nous. Et vous êtes en train de nous poser des questions concernant nos actions. Et les anges seront embarrassés et vont se mettre dans un coin. Et nous allons entrer au paradis, a répondu ce soi-disant guide spirituel. Voilà donc leur état. On voit la même chose aujourd'hui aussi. Ce sont des guides qui font entrer au paradis sans bonne action. Ce sont des gens qui, en fait, nous appellent vers l'enfer. Ils vont entrer en enfer et vont apporter avec eux leurs suivants. Ce paradis qui a été rapproché de l'homme est le paradis vers lequel nous guide le Messie promis, alayhi salam. Il a expliqué clairement le Saint-Coran et les hadiths. Il nous encourage à accomplir de bonnes œuvres et nous demande d'éviter ces futilités. Et il nous demande de nous prosterner devant Dieu. Voilà les voies qui vont nous mener au paradis. En ce qui concerne ces soi-disant pires, comme j'ai dit, cela ne date pas de l'époque du premier calife. On voit la même chose aujourd'hui. Il y a un grand nombre de musulmans au Pakistan, en Inde et dans la plupart des pays musulmans qui sont des ignorants. Mais cela ne concerne pas uniquement les ignorants, mais il y a aussi des soi-disant érudits qui se considèrent comme des lettrés. Parmi eux, il y a des grands leaders, des grands politiciens. J'en connais nombre d'entre eux qui ne prient même pas, qui ne lisent même pas le Saint-Coran, mais qui sont des mourides de ces soi-disant guides spirituels et qui se contentent uniquement de leur prière. Si le paradis va s'approcher de nous par de tels moyens, alors, na'udhubillah min dhalik, ce n'est pas la peine de suivre les préceptes du Saint-Coran. On n'aura même pas besoin du Saint-Coran. Nous sommes chanceux, nous les Ahmadis, nous qui avons accepté l'imam de l'époque, nous qui avons compris le sens réel du paradis. Nous qui avons compris c'est quoi avoir le plaisir de Dieu. Nombre de personnes m'écrivent à ce sujet ou me demandent à ce sujet. Lorsque je leur demande concernant leur prière, je constate que ces personnes ne prient même pas. Je leur dis que tout d'abord, vous devez prier vous-même. Priez vous-même, ensuite soutenez mes prières par vos prières. Tout cela est en accord avec la sunna du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, un compagnon du saint prophète s'est présenté à lui et a demandé au saint prophète de prier pour lui. Le saint prophète a déclaré que je vais prier pour vous, mais vous aussi, vous devez prier et me soutenir par vos prières. Voilà comment doit être cette société musulmane, c'est-à-dire qu'on doit se réformer, qu'on doit prier pour soi-même. Et lorsqu'on demande à quelqu'un de prier pour soi, on doit soutenir cette personne par ses prières. Ces prières seront exaucées. Ces prières qui suivent les préceptes de la sunna du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre moyen pour que ces prières soient exaucées. Et on doit prier pour le succès de la foi. Voilà la première priorité dans nos prières. Lorsqu'on va vivre ainsi, lorsqu'on va se consacrer ainsi à la prière, c'est là que l'on pourra apporter cette grande révolution, révolution pour laquelle Dieu a envoyé l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ce grand serviteur du saint prophète, grâce auquel le paradis s'est rapproché de l'homme. Ainsi donc, tout Ahmadi va devoir faire en sorte que ses pensées soient en accord avec ses préceptes, doit faire en sorte que ses actions soient en accord avec ses conseils. Je vais présenter quelques écrits du Messie premier, al-Islam, et déclare, j'ai dit en toute vérité, que le monde ne peut se lier avec la foi. Certes, le monde peut servir la foi, mais il ne peut y avoir de partenariat entre le monde et la foi. Jamais on a dit que celui qui a établi une relation avec Dieu va mendier, Dieu va accorder des grâces même à ses descendants. Alors pourquoi donc placez-vous de telles conditions? Un membre de notre Jama'a doit comprendre que selon sa Bayra, il doit accorder préférence à la foi sur le monde. Lorsqu'on respecte cette condition, lorsqu'on se tourne vers Dieu, eh bien Dieu va certainement vous soutenir. Il a déclaré, regardez la situation des compagnons du saint prophète. Dieu les avait purifiés. Voyez un peu l'état de Hadhrat Omar. Il a accepté l'islam et s'est transformé complètement. Et nous ne savons pas qui sont ces gens de la Jamaat dont leur foi va s'épanouir ainsi. C'est Allah qui connaît l'invisible. S'il n'y a pas de telles personnes qui vont s'épanouir spirituellement et qui vont établir cette jamaat, eh bien, cette jamaat ne va pas progresser. Mais que l'on sache aussi que si cette jamaat ne progresse pas pour la cause de Dieu, cette jamaat ne sert à rien. On a besoin du plaisir de Dieu. On doit être soutenu par l'Esprit Saint. Mais cela ne va pas venir tant qu'on n'est pas prêt à sacrifier son âme et tant qu'on n'agit pas sur ses préceptes. Il est dit, « Amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. » C'est-à-dire, quant à celui qui craint la dignité et le rang de son Seigneur et qui retient son âme des mauvais désirs, le jardin sera assurément son habitation. Le Messie promis, alayhi salam, a déclaré que l'on comprend que la vie du paradis débute ici sur terre si l'on se préserve de ses mauvais désirs. Il a déclaré que les soufis ont présenté les concepts de fana et autres. Ils ont déclaré que fana signifie éviter ses mauvais désirs. C'est-à-dire se préserver de ses mauvais penchants. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare que je suis en train de répéter ces choses à plusieurs reprises car Dieu veut créer cette jamaat. Le but de la création de cette jamaat est que ces personnes puissent acquérir cette vraie connaissance qui a disparu et cette vraie taqwa qui a disparu. Il veut rétablir et cette connaissance et cette taqwa. Généralement, on le voit partout de l'orgueil. Les ulémas sont victimes de leur orgueil. Regardez les soi-disant dévots. Leur état est tout autre. Ces gens ne sont pas intéressés par la réforme des autres. Leur seul objectif, leur seul dessein se limite à leur corps. C'est pour cette raison que leurs efforts, que leurs exercices sont tout autres. Ils nous présentent d'autres faits qui concernent le dhikr. Des faits que ne présente pas la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi sallam déclare que ces gens ne sont pas intéressés par la purification des âmes. Ils ne sont intéressés que par le corps et il n'y a pas trace de spiritualité en tout cela. Ces exercices ne pourront pas purifier les cœurs et ne pourront pas accorder la lumière. Ainsi, nous sommes en train de vivre dans cette période creuse. Et ils ont abandonné la pratique du saint prophète. Ils ont oublié cela. Et Dieu désire maintenant rétablir cette nubuwa. Et il désire rétablir cette taqwa. Et c'est pour cela qu'il a établi cette jamaat. Il a déclaré qu'on doit se tourner vers la réforme. À l'instar de la réforme apportée par le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah fasse que nous puissions être à la hauteur des attentes du Messie promis, alayhi wa sallam, afin que nous puissions, nous aussi, faire partie de cette grande révolution qui va se faire par l'entremise du Messie promis, alayhi wa sallam, Inch'Allah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر